Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat en direct, chacun de nos invités étant chez soi et nous-mêmes depuis la maison de Radio France. À l'ordre du jour ce soir, le virus peut-il court-circuiter le tourisme de masse? Ce 15 juin, vous l'avez entendu dans le journal, signe pour nombre d'Européens la possibilité de sortir de leurs frontières nationales et de voyager. Cela fait 3 mois que la plupart d'entre eux n'ont pas pu voyager au loin, étant donné le poids du tourisme dans leur PIB. Bien des pays du sud de l'Europe, comme l'Italie, la Grèce ou le Portugal, espèrent que cette ouverture leur permettra de sauver des économies fragiles. La crise de la Covid a mis en évidence certains des paradoxes de cette démocratisation touristique qui s'est accentuée ces dernières années. Hier encore, Vénitiens et Barcelonais protestaient contre les masses de touristes qui menaçaient leur ville. Aujourd'hui, Venise, par exemple, espère leur venue. Quelles tendances vont sortir de cette réclusion forcée et des idées qui en sont nées? Faut-il ralentir le tourisme de masse ou bien l'accélérer au nom du développement économique et du droit de chacun à découvrir d'autres paysages et d'autres visages? C'est ce que nous allons voir avec nos 4 invités. Avec Jean Dossonville, il est directeur général du domaine national de Chambord. Avec Bertrand Dréau, il est sociologue au Conservatoire national des arts et métiers, délégué à la présidence d'Astres. Et il est auteur des Français et des vacances et des co-auteurs également avec Saskia Cousin de Sociologie du tourisme. Maria Gravary-Barbas est également avec nous. Elle est professeure de géographie à l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est titulaire de la chaire UNESCO Culture, Tourisme et Développement. Et enfin, François Gémen est avec nous depuis Paris. Il est chercheur du Fonds national de recherche scientifique à l'Université de Liège, où il dirige l'Observatoire Hugo, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. Il est membre du GIEC, co-directeur de l'Observatoire sur le climat et la défense, mis en place par le ministère des Armées, et co-auteur d'un atlas de l'Anthropocène. Une première question à vous quatre, nos 4 invités d'aujourd'hui, Jean Dossonville, Bertrand Réau, Maria Gravary-Barbas et François Gémen. Est-ce que vous pensez, les uns ou les autres, depuis le poste qui est le vôtre, eh bien que quelque chose a profondément changé dans le domaine qui nous intéresse, à savoir le tourisme? Bertrand Réau d'abord, bonjour.
Oui, bonsoir. Je vous remercie pour votre invitation. Et en fait, je pense que déjà les termes du débat sont intéressants et il faudrait effectivement y revenir et s'y attarder un instant. Comme vous l'avez très bien mentionné dans votre introduction, on parle souvent de tourisme de masse, mais rien que dans l'expression déjà de tourisme de masse, on a une représentation de ce que c'est que la masse, la massification, l'invasion, et on retrouve toutes les oppositions entre élite et masse, individu et société, l'un et le multiple, etc. Et donc, c'est pas anodin, en fait, de parler déjà de tourisme de masse en soi. Bien sûr. Je pense qu'on gagnerait d'abord à se demander, effectivement, quelles sont les gestions des flux touristiques, les questions qui se posent, puisque, effectivement, ce que vous dites est très juste. Au jour d'aujourd'hui, les professionnels du tourisme sont en attente des touristes, et l'enjeu est plutôt de savoir comment, finalement, les faire revenir dans des bonnes conditions, pour qu'ils puissent justement avoir un tourisme durable et que ce ne soit pas que un label. Donc je pense que c'est vraiment important aussi de aussi se donner des concepts et des mots un peu différents dans la mesure où masse renvoie à des choses finalement totalement positionnées et négatives, en fait.
Maria Gravary-Barbas, vous qui êtes professeur de géographie, vous n'aimez pas non plus l'expression surtourisme qu'on utilise souvent. Vous dites ça n'est pas valide souvent, le surtourisme, même si nous publions aujourd'hui dans la conversation mondiale, donc les textes que nous demandons à des chercheurs, à des intellectuels, à des écrivains et des artistes du monde entier depuis le début de la crise de la Covid, un texte d'Assumption Blanco Romero et de Macia Blasquez Salom qui disent il faut domestiquer le tourisme, et en particulier ce surtourisme donc qui gâche les paysages et qui empêche effectivement des développements harmonieux des pays, puisque ce sont certaines zones qui sont privilégiées, tandis que d'autres sont sous-touristiques.
Oui, le surtourisme désigne effectivement la façon dont plusieurs destinations vivent mal une fréquentation touristique. Donc, c'est une façon de voir le tourisme à un moment donné, et je suis d'accord avec les précautions d'usage qui ont été faites par Bertrand Réau. les populations locales effectivement ont énormément manifesté contre ce qui est qualifié comme surtourisme, notamment après l'été 2017. Et c'est vrai que nous trouvons aujourd'hui devant un extraordinaire changement de paradigme entre l'été de 2019 qui était vraiment marqué par ce que l'on qualifie parfois un peu facilement de surtourisme et l'été 2020. C'est vrai qu'il y a une ligne de démarcation qui est extrêmement impressionnante. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que effectivement l'été 2021 sera comme l'été 2019, oui. c'est-à-dire un peu business as usual, comme d'habitude, ou est-ce que finalement cette crise pourrait laisser un sceau un peu plus durable, un peu plus pérenne. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'effectivement, pour plusieurs analyses, cette pandémie de Covid peut devenir un temps de réflexion, permettant de voir différemment les problèmes qui sont un peu devenus endémiques pour l'industrie touristique. Le surdéveloppement, la pollution, la destruction de l'environnement, des conditions de travail parfois injustes, l'exploitation des animaux sauvages, l'exploitation des femmes, des enfants, les trafics sexuels, la marginalisation des peuples indigènes, la corruption. Donc tout un ensemble de choses qui effectivement parfois posent problème. Ouais. Et il y a clairement une volonté de la part des acteurs du tourisme, que ce soit à un niveau local, à un niveau national et à un niveau international, à ce que on sorte, on pourrait dire, de cette crise avec un nouveau paradigme touristique. Je prends ici le motto de l'OMT qui parle donc de la durabilité.
Organisation mondiale du tourisme. L'OMT, c'est exactement, l'Organisation mondiale du tourisme.
L'Organisation mondiale du tourisme qui dit donc que la durabilité ne doit plus être un créneau du tourisme, mais doit être la nouvelle norme pour chaque partie du secteur touristique. Ouais. Donc une nouvelle responsabilité pour transformer le tourisme. Et l'émergence donc de Covid-19 deviendrait un tournant pour la durabilité. Voilà. Évidemment, dans tout ce que nous disons ici, il n'y a pas que, l'absolu. On parle pas que des jugements. On parle aussi des jugements qui sont quelque part qui impliquent un certain nombre de valeurs que les uns et les autres accordent ou pas au tourisme.
Ouais. Je vais donner la parole à François Gémen. Bonsoir, François Gémen. Cette durabilité, ça doit vous faire plaisir, puisque je rappelle que vous êtes membre du GIEC, vous avez coordonné, vous êtes co-directeur de l'Observatoire sur le climat et la défense. Vous êtes également, vous dirigez l'Observatoire Hugo, qui est spécialiste des questions de géopolitique et d'environnement. Et si nous avions convié dans cette émission d'aujourd'hui, c'est parce que nous avons été alertés par une chronique de notre ami Hervé Gardette, qui disait, bien voilà, sur la question de l'avion, voilà quelqu'un qui a une position originale, François Gémen, puisqu'il est à la fois spécialiste de réchauffement climatique et en même temps, il se dit qu'il faut peut-être réfléchir à cette question du tourisme de masse différemment de ce qu'on dit habituellement.
Bien entendu, je dirais qu'on est pris ici dans une sorte de dilemme quasiment moral, puisqu'on sait bien que, évidemment, le secteur de l'aviation est une source importante d'émissions de gaz à effet de serre, autour de 3% des émissions mondiales pour le moment, mais surtout que c'était, jusqu'ici en tout cas, un secteur en très forte croissance. On prévoyait un doublement du trafic aérien dans les 30 ans, et donc il est certain que si l'on restait sur cette trajectoire, ce n'était pas du tout soutenable et pas du tout compatible avec la lutte contre le changement climatique. Et en même temps, l'autre élément du dilemme, c'est que à l'heure actuelle, seuls 15% de la population mondiale a déjà pris l'avion. Et donc, si on veut considérer les bénéfices que l'avion peut apporter, notamment le droit de découvrir d'autres horizons, on peut se dire, au nom de quoi est-ce que nous, habitants des pays industrialisés, refuserions-nous le droit aux 85% de la population de la planète de jamais prendre l'avion? Et donc, il y avait vraiment un dilemme moral. J'ai presque l'impression que la crise de la Covid-19 est en train de solutionner ce dilemme moral, puisque vraisemblablement,
c'est assez radical. Comme solution,
puisque vraisemblablement à l'avenir, l'offre aérienne sera réduite, ce qui veut dire que les prix des billets d'avion vont sans doute augmenter, et dans le même temps, comme on se dirige vers une récession d'assez longue durée, ça veut dire que les gens auront sans doute moins d'argent à consacrer aux loisirs.
Jean Dossonville, vous êtes notre dernier invité dans cette discussion autour du tourisme de masse et du virus qui pourrait le court-circuiter. Vous êtes le directeur général du château de Chambord. Voilà un château qui, il y a quelques dizaines d'années, ou quelques années même, était autour de 850 000 visiteurs par an. Vous avez passé l'année dernière les 1 100 000. Vous estimez en tant que directeur général qu'il serait peut-être nécessaire de passer à 1 200 000 pour être à l'équilibre et assez à l'aise dans le développement de votre de ce monument national. Mais néanmoins, vous vous dites il ne faut pas aller beaucoup au-delà parce que, justement, il faut réfléchir à cette question de ce qu'est un tourisme durable qui vient d'être mentionné par nos autres invités, Jean Dossonville.
Je crois que ce qu'il y a de positif dans la crise, et votre table le montre, c'est que beaucoup de lieux de patrimoine, d'institutions culturelles se posaient déjà la question du tourisme durable, mais sans trop savoir comment amorcer la mutation, puisqu'en fait tout le monde dépend des flux touristiques. Et là, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on ne peut plus, vraiment plus, évacuer la question. Donc là, il y a peut-être...
Vous êtes au pied du mur, c'est un moment décisif d'une certaine façon.
Bah, vous savez, il y a 32 km de mur à Chambord, donc on est facilement au pied du mur. Chambord, on est bien obligé. Alors moi, après, je parle du point de vue d'un lieu de patrimoine en France, en Europe, donc qui obéit au code du travail, un droit social qui est très protecteur, ordonné, et avec cette ambition qui était aussi de participer à une meilleure répartition des flux touristiques en France et à une préservation aussi de l'emploi et d'une activité économique qui est utile en France, puisque nous sommes évidemment face à une concurrence internationale. On dit toujours que le patrimoine n'est pas délocalisable, mais les flux touristiques le sont. Donc au fond, la question, et ça a été un petit peu abordé tout à l'heure dans les premières interventions, c'est celle de la juste gestion des flux, d'un équilibre dynamique qui n'épuise pas le lieu de destination, qui permet aussi, peut-être, dans un pays comme le nôtre, de faire profiter un peu tous les territoires, si c'est possible, sans créer de nuisances nouvelles, notamment de transport, dans ce tourisme.
Mais on avait l'impression tout de même ces dernières années que la question, en particulier pour le patrimoine, pour des grands lieux comme Chambord, comme Versailles ou comme d'autres grands lieux touristiques comme le Mont-Saint-Michel, eh bien c'était une sorte, c'était peut-être qu'une impression, de course aux chiffres. On voyait tous les ans paraître le nombre de touristes supplémentaires sur notre territoire national, mais également combien tel ou tel musée, tel ou tel lieu de patrimoine avait gagné de visiteurs par rapport à l'année précédente. Est-ce que vous pensez que cela s'est interrompu, Jean Dossonville, c'est-à-dire est-ce que cette course aux chiffres, il faut en sortir?
C'est exact, et je pense effectivement qu'il faut apprendre à en sortir, parce qu'on sait bien que dans tel ou tel lieu, cela finissait par porter atteinte au patrimoine, à la présentation des collections, et tout simplement à la qualité de la visite. Et donc la crise nous oblige à en sortir, à réfléchir autrement, et c'est une bonne chose. Après, il faut voir aussi que nous vivons les uns les autres de ces recettes touristiques, donc il faut peut-être apprendre à créer de nouvelles recettes paratouristiques ou diversifiées, et en même temps en échappant à un dilemme qui était mentionné au départ, qui est celui du tourisme de masse versus tourisme de luxe. On peut avoir un tourisme de grand public large, qui ne serait pas un tourisme de massification, et on peut avoir une approche du luxe qui n'est pas le luxe au sens du coût, de la cherté ou de l'élimination par le pouvoir d'achat, mais par l'authenticité ou la qualité en fait de ce qui est offert. Par exemple, l'origine d'un produit alimentaire ou la qualité d'une visite offerte au jeune public, par exemple. Ce sont des travaux à approfondir.
On va y revenir avec vous dans un instant, Jean Dossonville, puisque c'est vous, Bertrand Réau, qui mettiez cette question justement de tourisme de masse, tourisme de luxe sur la table. On peut dire effectivement que on voit des villes qui se sont révoltées, on l'a dit tout à l'heure, contre la massification touristique, le nombre de touristes très importants qui venaient, mais en même temps, on voit bien aussi que ces villes, quand ce touriste n'est plus là, eh bien, elles souffrent. C'est le cas de Venise. Il y a beaucoup de reportage ces temps-ci sur Venise qui attend désespérément de nouveaux touristes pour pouvoir redémarrer. Il y a 10 000 emplois dans la cité vénitienne qui sont à la clé pour pouvoir continuer à survivre.
Oui, tout à fait. Et j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit aussi concernant les transports aériens, qui est vraiment aussi essentiel. Non seulement, effectivement, il y a des écarts très importants entre les pays du Nord et les pays du Sud, mais il faut aussi mentionner qu'il y a des écarts très importants au sein des pays du Nord eux-mêmes. Mmh. C'est-à-dire que les inégalités sociales en matière de départ, et en particulier de départ de voyage à l'étranger, en dehors de la famille proche, sont assez importants.
80% des touristes en France, des Français, partent sur le territoire national, c'est ça souvent ?
Oui, mais c'est surtout en fait plus parlant de prendre un chiffre du type un écart entre ouvriers et cadres supérieurs, c'est de 1 à 6 pour les voyages à l'étranger en dehors de la famille proche, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des retours dans de la famille, donc ils sont les voyages les plus distinctifs, organisés ou les plus chers parfois aussi, et 1 à 3 lorsqu'on prend de tous les voyages. Vous voyez, ça c'est plus parlant que, je dirais, 40% de non-partants, 60% de partants, qui en fait comptabilisent le plus souvent des gens qui partent plusieurs fois. Donc il y a aussi cette chose-là qui est importante à avoir en tête lorsqu'on parle de régulation des flux. Il y a aussi le fait qu'il ne faut pas oublier que la démocratisation des vacances est aussi essentielle, en fait, par ailleurs. Alors ça, c'est important d'avoir en tête, et c'est d'autant plus important, on le voit aujourd'hui, avec finalement la façon dont on a été un peu pris de court, je dirais, avec cette crise, pour ce que ça révèle sur le tourisme en France lui-même. C'est-à-dire que, bien évidemment, on a d'un côté l'offre touristique qui est foisonnante et qui est très diversifiée, et la France est un pays très riche à ce côté-là, mais jusqu'à maintenant, on a quand même mis beaucoup, beaucoup l'accent sur la clientèle étrangère pour travailler la demande touristique. Or, il me semble que c'est assez étonnant, mais je le dis avec des collègues depuis de nombreuses années, il serait important d'avoir, par exemple, un ministère du tourisme, soit rattaché au premier ministre, du tourisme et du temps libre, pour pouvoir justement réfléchir à l'articulation entre les deux, entre cette offre et cette demande. C'est des choses qui sont bien évidemment faites dans chacun des territoires, et les territoires travaillent à ces éléments-là, mais les territoires sont aussi en concurrence les uns et les autres. Et donc, il y a aussi cette nécessité, et ça rejoint tout à fait ce qui était dit par rapport au domaine de Chambord, c'est-à-dire cette nécessité à travailler à l'organisation des flux, à la diversification des clientèles, à la diversification aussi des façons de voir les lieux, et à leur répartition plus équilibrée sur l'ensemble des territoires. Le tourisme est bien évidemment essentiellement aussi des choses que l'on raconte. Et il y a beaucoup de choses à raconter, il y a beaucoup de choses à voir, il y a beaucoup de choses à faire qui participent, ne l'oublions pas, à l'origine, même si on peut redire sans anachronisme du tourisme, c'est quand même un grand tour qui visait à socialiser les jeunes. Donc n'oublions pas cette dimension aussi qui est essentielle pour comprendre aussi que cette diversification peut aller dans le sens aussi, bien évidemment, d'une relance du secteur et, je dirais, d'une diversification des publics et des produits, tout en faisant vivre un secteur qui est essentiel, bien évidemment, pour l'économie.
On a bien vu, Maria Gravary-Barbaz, que justement, face à cette idée de massification, même si ça n'est qu'une idée, on a bien compris depuis le début, eh bien, il y avait de la distinction qui était entrée dans la question touristique, qu'on avait inventé un tourisme beaucoup plus élitiste, un tourisme de niche, un tourisme qui regagne peut-être, selon vous, les chemins du tourisme romantique du 19e siècle, mais ce tourisme qui se voulait plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des populations, ça n'est pas non plus cela qui permet ni à ces populations de vivre, ni peut-être effectivement à tout un tas de personnes qui travaillent actuellement dans le tourisme de continuer à survivre.
Oui, tout à fait. Mais en fait, la question qui me semble vraiment essentielle ici, c'est de quelle façon l'après-Covid pourrait être différent. Et si on veut retrouver, effectivement, renouer avec les territoires, trouver une idée du tourisme tel qu'il était, comme le disait tout à l'heure Bertrand Réau, à ses débuts dans les grands tours, il faudrait peut-être qu'on comprenne qu'une partie des problèmes que nous avons aujourd'hui et que nous qualifions donc de tourisme de masse sur un certain territoire sont aussi des problèmes liés à un laisser-faire. On a considéré que le tourisme peut se développer là où il veut, comme il veut, sans qu'il y ait un encadrement. Là, il y a une opportunité quand même avec l'après-Covid. Le fait, par exemple, que les États interviennent. Il y a, dans la plupart des pays, une intervention désormais importante des États qui vient donc soutenir ce secteur du tourisme, qui évidemment doit être soutenu. C'est évidemment très important pour les territoires, mais en général, donc, ces aides des États peuvent être aussi associées à un ensemble d'exigences. Et c'est ça qui me semble véritablement important. Je me permets de prendre de nouveau un exemple qui reprend ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aérien. Le fait que l'État, par exemple, actuellement, va aider Air France eh bien, cette aide est quand même associée, accompagnée des contreparties mmh. écologiques très ambitieuses qui sont donc désormais imposées, où il faut réduire le nombre de vols, par exemple, entre les destinations où il y a une alternative ferroviaire, une réduction des émissions de CO2, une intégration des carburants alternatifs, la possibilité aussi de renouveler la flotte pour des avions qui consomment moins. Donc ça, c'est très important, comprendre comment, dans cette situation de l'après-Covid, non seulement on pensera en fait à un tourisme qui pourrait être différent, mais comment on peut en profiter véritablement pour les mettre en place.
Et vous,
et je pense que par rapport à cela, il y a actuellement une conjoncture qui est très favorable.
Et vous, François Gemène, qui travaillez sur la question du climat, vous pensez effectivement que cette question touristique peut être appréhendée de manière différente? On parlait à l'instant des avions. Vous imaginez peut-être que des avions à hélice sur des distances plus courtes, c'est plus avantageux que des avions à réacteur, par exemple.
Je pense effectivement que la crise actuelle peut être l'occasion pour le secteur aérien de se remettre en question et de se réinventer pour devenir plus durable. Je pense par exemple à des partenariats entre compagnies aériennes et compagnies ferroviaires pour des trajets de courte distance qui sont aujourd'hui effectués en vols court-courriers qui de toute façon ne sont souvent pas très rentables. On pourrait imaginer que ces vols court-courriers soient effectués en train et que donc les compagnies aériennes deviennent véritablement des compagnies de transport. Et il y a également toute une série d'améliorations technologiques, soit high-tech, on parle beaucoup du carburant vert à l'hydrogène, mais aussi potentiellement low-tech. Sur des petites distances, par exemple, faire voler des avions à hélice permet de réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre sans véritablement allonger beaucoup le temps de parcours. Parce que je crois véritablement, et c'est un élément qui me paraît très important quand on discute du tourisme mondial ou mondialisé, c'est de ne pas avoir une perspective trop eurocentrée. C'est-à-dire que chez nous, on voit bien qu'il y a une sorte de conscience écologique qui gagne, que les gens sont réticents de plus en plus à prendre l'avion sur de courtes distances, mais dans le même temps, le développement fait qu'il y a l'émergence d'une classe moyenne de plus en plus nombreuse dans toute une série d'économies émergentes ou en développement, et donc une classe moyenne qui va aussi aspirer au tourisme et aussi aspirer au voyage, de la même manière que les voyages en avion dans les années 50 et 60 étaient encore un bien de luxe chez nous, que seule une toute petite minorité de la population pouvait se permettre. Aujourd'hui, c'était très démocratisé.
Ça n'est plus en tout cas une manière de se distinguer, en tout cas l'avion aujourd'hui.
Ce n'est plus en tout cas une manière de se distinguer, singulièrement depuis l'arrivée des compagnies low cost sur le marché européen. Et donc effectivement, l'émergence de cette classe moyenne va aussi imposer que nous redéfinissions les cadres du tourisme mondial.
Il est 18h42 sur France Culture. Vous écoutez Le Temps du Débat. Le virus peut-il court-circuiter le tourisme de masse?
France Culture, Le Temps du Débat, Emmanuel Laurentin.
Le Temps du Débat, voilà. Le temps des romances, voilà, l'été recommence, vous pouvez chanter, voilà, le temps des vacances, déjà, tout le monde y pense, là-bas, la vie recommence, sous un ciel d'été, à chacun sa part de rêve, les dépenses vont dans la fièvre, il est bienvenu ce moment de trêve.
Voilà Le Temps des Vacances, Petula Clark, qui nous replonge dans des couleurs acidulées des années 1960. Jean Dossonville, vous qui dirigez le domaine de Chambord, est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous imaginez pour ce monde d'après du tourisme après la Covid-19 pour votre domaine qui est celui de Chambord? Vous dites on va essayer de ne pas croître en fréquentation, ça va être sûrement difficile parce que on sait très bien qu'il y a la tentation d'avoir de plus en plus de monde. Comment faire justement pour pouvoir maintenir le niveau que vous avez connu désormais, 1 million, 1 million 100, 1 million 200 000 visiteurs par an et pas plus?
Nous savions que nous avions besoin d'arriver à peu près à 1 million de visiteurs. Nous avions calculé que c'était à peu près la garantie de l'autonomie de financement. Donc c'est important parce que c'est aussi une sécurité pour l'emploi, pour l'entretien du patrimoine, pour les projets, et aussi une manière d'être sobre en deniers publics pour qu'ils puissent se redéployer ailleurs. Il est probable que cet équilibre s'atteint plus à 1,2 million, mais nous sommes arrivés à 90-92% d'autofinancement, ce qui est très élevé pour un lieu de patrimoine. Et en revanche, nous savons aussi que si nous nous approchons de 1,5 million de visiteurs, nous arriverions sans doute à une forme de saturation du monument, ou en tout cas une courbe de déplaisir des visiteurs et également du personnel. Beaucoup de difficultés nouvelles, et donc nous ne pensons pas qu'il soit souhaitable d'y arriver. En fait, nous étions en rattrapage. Le rattrapage, il est quasiment effectué aujourd'hui, et donc je ne sais pas exactement comment ça se maîtrisera, parce que la réalité, c'est qu'on va dépendre aussi beaucoup du marché international. Mmh. Mais notre idée, c'est quand même d'abord de diversifier les propositions sur place en profitant du fait que nous avons énormément d'espace. Nous avons aussi 1000 hectares de promenades ouvertes à la visite. Nous avons replanté une vigne. Nous venons de replanter un potager qui est conduit en permaculture. Nous avons refait nos jardins. Et donc, il y a l'idée d'abord de l'espace qu'on peut mieux utiliser avec des flux in situ qu'on peut un petit peu mieux inciter, conduire. Mm-hmm. Il y a aussi l'idée d'inciter nos visiteurs à rester plus sur place qu'on faisait déjà avant, mm-hmm. d'abord en proposant aussi des points de consommation, mais aussi peut-être plus de pédagogie et d'éducation. Il y a quelque chose de très important pour les lieux de culture, qui est déjà très bien fait en France autour de l'éducation des tout-petits, mais qui peut être étendu au jeune public. Je pense que la France a encore des marges de progrès. Ça veut dire qu'on peut dédier plus d'espace dans un monument pour amener les familles à rester plus longtemps ou à laisser un enfant et faire autre chose mm-hmm. pendant ce temps, ce qui sont d'autres modes, si vous voulez, de visite plus tranquilles, mm-hmm. Plus lents. Et il y a dans tout cela aussi une question stratégique, qui est celle de la diversification des recettes. Je pense que beaucoup de lieux de patrimoine en France devront se poser beaucoup plus la question de la gestion du nom et de la marque. On était beaucoup trop longtemps dans celle du mécénat, qui consiste à demander de l'argent, alors que la marque, finalement, c'est une manière de dire « nous avons un nom qui rayonne et il vaut quelque chose ». Et vous l'utilisez et vous devez participer à l'entretien de ce patrimoine qui appartient, somme toute, à la nation. Ça, c'est un vrai sujet nouveau. Et puis, il y a pour nous l'exploitation des ressources du domaine, l'exploitation écologique nouvelle. Je citais, par exemple, la forêt, les meilleures parties du chêne, au lieu de le vendre comme ça anonymement, eh bien, désormais, nous gardons le mérin et avec une tonnellerie en Bourgogne, nous commençons à faire des tonneaux. Mmh. C'est une manière de mettre de la valeur ajoutée sur le même produit. Voilà, vigne, potager, eau de bouleau, enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça.
Et justement, Bertrand Réau, est-ce que vous pensez que ces promesses, qui sont des promesses de changement, parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, il y avait des inconvénients à ce tourisme de masse, vont être suivies d'effet, ou comme quand on voit effectivement la nécessité de rattrapage, et on parle de reconstruction, c'est ce que disait le président hier, de rattrapage ou de reconstruction de l'économie, ben on va peut-être aller au plus simple, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de plus de touristes qui viennent pour pouvoir justement permettre de rattraper l'argent perdu.
Oui, alors tout ce qui a été dit jusque-là, justement, nous incite plutôt à penser qu'une reprise quelque peu anarchique ne sera bénéfique finalement pour personne, peut-être à court terme, pour un certain nombre d'éléments, mais que très vite, on arrivera à des effets néfastes. Et effectivement, les solutions, elles ont été évoquées, à la fois une coordination territoriale, à la fois potentiellement donc une stratégie, une politique touristique qui soit à la fois qui prenne en compte à la fois l'offre et la demande.
Mais par exemple, dans les 18 milliards des acteurs, dans les 18 milliards du plan annoncé par Édouard Philippe quand il a dit que c'était la pire épreuve de l'histoire moderne du tourisme en France, il n'y a pas de fléchage comme vous pouvez l'espérer. C'est plutôt on donne de l'argent pour pouvoir sauver le système.
Alors il y a deux temps, il y a bien évidemment un temps nécessaire et important, bien évidemment, il y a un temps de l'urgence nécessaire, il y a des emplois derrière, il y a un secteur économique et il y a effectivement la nécessité de le sauvegarder. Mais on voit bien que déjà les réflexions et les innovations, et le secteur touristique est un secteur qui innove aussi beaucoup, les innovations sont importantes, on vient de l'entendre là pour Chambord, voilà, la diversification des produits, la diversification des marques, des destinations, la façon de raconter les histoires, la diversification des ressources en fait qu'on peut obtenir sont déjà à l'œuvre. Et on a vu aussi par exemple qu'une partie des musées avaient mis leurs collections donc à disposition via des visites virtuelles, etc. Donc il y a plein de choses qui se créent, qui se mettent en œuvre, sur lesquelles ils peuvent être aussi capitalisés pour pouvoir justement gérer intelligemment les flux et diversifier les types de clientèle, parce qu'il y a aussi des usages différents en fonction des clientèles des lieux. Ça, c'est aussi très important à avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a non seulement les lieux en eux-mêmes, mais il y a aussi la façon dont ils sont utilisés. Et là, il y a aussi une réflexion à mener pour pouvoir justement, non seulement sur les territoires, mais aussi dans les lieux eux-mêmes, avoir plusieurs types de publics au même moment, ou alors au contraire, pouvoir organiser la venue de tel public pour pouvoir avoir tel aspect, telle façon de présenter un lieu, que ce soit un lieu naturel, que ce soit un lieu patrimonial, que ce soit un musée, ou encore même pour des activités plus physiques ou sportives. Donc, toutes ces réflexions-là, les acteurs du tourisme les mènent déjà. Le problème, c'est que parfois, c'est mené de manière un petit peu, justement, anecdotique, je dirais, et que on n'a pas forcément toujours la possibilité de capitaliser sur les bonnes expériences, sur les bonnes innovations, alors que ce serait bien justement de pouvoir partager les bonnes pratiques pour pouvoir travailler à faire une véritable politique par rapport à ces éléments-là. Je pense que ça c'est important, et on le voit, il y a des États qui commencent à aller vers ces éléments-là.
Lesquels, par exemple ?
Vous voyez les réflexions qui sont menées dans des pays qui sont pas forcément identifiés tout de suite comme très touristiques, mais comme l'Allemagne par exemple, ils réfléchissent au sein des Länder, il y a des choses qui sont menées. L'Italie aussi, plan de relance qui est pas qu'un plan de relance d'attractivité touristique, il y a aussi des réflexions qui sont menées.
Il faudrait que ça se fasse aussi en France, j'imagine.
Oui, il y a des choses qui se font en France, bien évidemment aussi, mais c'est vrai que voilà. Typiquement, peut-être qu'un ministère, comme je le disais tout à l'heure, du tourisme pourrait être une bonne chose pour avoir un lieu vraiment central et qui permettrait de définir une politique nationale.
Maria,
c'est une suggestion.
Maria Gravary Barbas, par exemple, vous qui connaissez très bien la Grèce, voilà un pays qui l'année dernière a eu une sorte d'embellie avec l'arrivée de nombreux touristes, mais qui aussi se plaint comme Venise, c'est le cas par exemple de l'île de Santorin, qui ne sait plus trop quoi faire, de ces bateaux qui arrivent au port et qui viennent à la fois de Crète, mais aussi qui viennent de paquebots très nombreux, et qui a mis un péage en place, ne sait pas très bien comment faire pour pouvoir justement gérer ce flux touristique sur une île aussi petite que Santorin.
Oui, tout à fait. Non, mais Santorin, c'est vraiment l'exemple d'un surtourisme, et je pense que là c'est clair que c'est une situation qui devient explosive, y compris localement, y compris pour les acteurs du tourisme qui eux-mêmes demandent pour des modèles alternatifs. Je pense que si on ne sort pas du quantitatif, d'une appréciation du tourisme par la quantité, on n'aura rien compris de cette crise là. Cette crise, elle appelle véritablement à ce que d'autres indicateurs puissent évaluer de la pertinence d'une destination, de la qualité.
Lesquels, par exemple, quels indicateurs, par exemple ?
Le bien-être, par exemple, le bien-être des sociétés locales. Ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, devient une nécessité absolue. Les sociétés locales elles-mêmes se manifestent et font savoir qu'il n'est plus possible, finalement, de sacrifier tout ce qui est aujourd'hui sacrifié au tourisme. Il y a des villes dont le programme des élections repose sur une volonté de restructurer, de réorganiser le tourisme. Il ne s'agit pas du tout des refus du tourisme. Il s'agit d'un tourisme qui se pense et qui s'organise différemment. Il s'agit d'un tourisme qui réfléchit sur les chaînes de valeur, qui réfléchit sur une économie circulaire qui peut éventuellement être mise en place, qui permet donc de réduire les déchets, qui permet de réutiliser, qui permet en fait d'innover, de recycler, de réutiliser. Donc d'autres paradigmes touristiques. Mmh. Et il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que les touristes aujourd'hui demandent ce type de tourisme. Et en fait, ce qui pourrait nous rester de cette crise, c'est la réinvention d'un territoire plus proche, la proximité, la qualification de la proximité, mmh, comme finalement quelque chose qui est positif et qui n'est pas découvert par défaut, parce qu'on ne peut pas aller mmh loin, parce qu'on n'a pas les moyens d'aller loin, mais parce qu'on les choisit véritablement.
Une proximité de choix.
La proximité, mmh, oui, tout à fait. Une nouvelle qualité, un slow tourism, mmh, un tourisme lent qui permet donc de redécouvrir différemment le patrimoine et les patrimoines de façon générale, mmh, et une gamme de patrimoines peut-être plus étendue. Mmh. Évidemment, il y a ces lieux incontournables comme Chambord, mais il y a aussi un tourisme, un patrimoine pardon de proximité et qui peut tout à fait se combiner avec la visite, mmh, de Chambord et qui peut aussi permettre parfois d'irriguer de façon beaucoup plus profonde, intéressante, un territoire.
C'est ce que disent
à d'autres modèles de tourisme.
Ouais, c'est ce que disent d'ailleurs dans le texte de la Conversation mondiale qui est publié depuis aujourd'hui sur le site de France Culture à l'initiative de l'équipe du Temps du Débat, Asuncion Blanco Romero et Macia Blasquez Salom, qui sont tous les deux des géographes qui travaillent sur le tourisme en Espagne. François Gémen, pour conclure, vous qui avez écouté cette discussion et qui êtes très intéressé en tant que spécialiste de la question de la géopolitique de l'environnement, qu'est-ce que vous pensez justement de ces promesses qui pourraient être parfois des promesses en l'air et la possibilité qu'elles deviennent plus concrètes?
On se rend bien compte effectivement qu'il va falloir trouver un équilibre plus juste et qu'il va falloir aller vers un tourisme qui soit plus durable, peut-être plus lent, qui soit plus qualitatif. Mais je voudrais simplement aussi adresser une mise en garde au risque de passer ici pour le gauchiste de service. Je ne voudrais pas que cette transformation du tourisme se fasse au détriment des familles les plus modestes. Ouais. Je ne voudrais pas que ça devienne une sorte de tourisme d'élite qui soit réservé uniquement aux gens qui ont le temps, aux gens qui ont les moyens.
Vous ne voulez pas revenir au grand tour du 19e siècle, c'est ça?
Voilà, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de congés, qui n'ont pas beaucoup de moyens. Il faut aussi se souvenir que le tourisme de masse a aussi permis à des familles plus modestes de découvrir pour la première fois des pays étrangers. Je ne voudrais pas que la crise actuelle n'en vienne à rétrécir leur horizon.
Merci en tous les cas à tous les quatre. Merci à vous Bertrand Réau, merci à Jean Donsonville, merci à vous François Gémen, et ainsi qu'à Maria Gravary-Barbaz d'avoir essayé de répondre à cette question. Le virus peut-il court-circuiter le tourisme de masse? Nouvelle émission donc du Temps du Débat. Le Temps du Débat préparé comme d'habitude par Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Bay, Hugo Boursier et Manon Prisset. À la technique aujourd'hui, Alexandre Dang. À la réalisation, Olivier Bétard. Demain, nous nous poserons une question tout autre. Le ministre de l'Intérieur est-il le premier flic de France? Nous allons donc parler des relations entre le ministère de l'Intérieur et les policiers en particulier. Ça sera le thème de l'émission de demain. Et puis la Conversation mondiale, je vous le rappelle, donc continue sur le site de France Culture. Bien des textes, il y en a maintenant plus de 60, demandés à des intellectuels, des écrivains, des artistes du monde entier pour réagir à la crise que nous connaissons.